L'Évangile de Luc, chapitre 3, versets 15 à 16 et versets 21-22. Luc, chapitre 3, versets 15 et 16, versets 21 et 22. Au nom de Jésus. Le peuple attendait plein d'espoir, chacun pensait que Jean était peut-être le Messie. Jean leur dit alors à tous, « Moi, je vous baptise avec de l'eau, mais quelqu'un de plus puissant que moi va venir. Je ne suis pas même assez bon pour délier la courroie de ses sandales. Il vous baptisera avec le Saint-Esprit et avec du feu. » 21 et 22. Après que tout le peuple eut été baptisé, Jésus fut aussi baptisé. Pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe, et une voix se fit entendre du ciel : Tu es mon Fils bien-aimé, je mets en toi toute ma joie. Amen. Voilà, nous tombons sur un texte qui a fait couler beaucoup d'encre en matière de baptême. Le baptême a toujours divisé les églises protestantes avec leurs courants différents au sein du protestantisme. Ce texte a été utilisé à la fois par les pédobaptistes, c'est-à-dire ceux qui ne font que le baptême d'enfants, mais aussi par les anabaptistes, ceux qui ne prônent que pour le baptême d'adultes. Donc il y a deux extrêmes. Il y a ceux qui ne font que le baptême d'enfants et ceux qui ne font que le baptême d'adultes. Entre parenthèses, nous ici, notre communauté a choisi la ligne théologique, nous faisons les deux formes de baptême. Baptême d'enfant, baptême d'adulte, par immersion et par aspersion. Mais, finalement, quand on y entre un peu plus en profondeur, le texte ne parle en aucun cas de pratique baptismale. Et pourtant, on passe trop de temps là-dessus. C'est pas du tout le sujet. Quelle forme est-ce qu'il faut le mettre, faire le baptême au bord d'une rivière? Est-ce qu'il faut juste un baptistère qui est très simple? Ce n'est pas le sujet. Et je pense que s'arrêter à des débats sur la forme de baptême en abordant ce texte, je dis bien ce texte, est vraiment dommage parce qu'on a passé à côté de quelque chose de plus profond, l'essentiel même. Si vous avez remarqué le découpage textuel, comment on a découpé le texte, est assez bizarre. C'est voulu par ceux qui ont défini le lectionnaire œcuménique que nous suivons ici à Namur. Ce lectionnaire nous oriente déjà vers une direction d'interprétation plus précise, bien précise même. Regardez bien. Jean-Baptiste dit que celui qui viendra avant lui est plus fort que lui. Il parle de Jésus. Et ce serait encore trop d'honneur pour moi, dit Jean-Baptiste, de délier la lanière de ses sandales. Je ne mérite même pas de m'agenouiller devant lui et de délier les lanières de ses sandales. C'est encore trop d'honneur pour moi de le faire. C'est-à-dire que Jean-Baptiste s'abaisse très bas pour dire qu'il n'est rien du tout face à celui qui va venir. D'où le thème de notre culte, le Dieu des nuls. Et l'explication qu'il donne sur la raison de cela se trouve au verset 17. Celui qui va venir, qui il est ? Il a sa fourche à la main. Il va nettoyer son air. Il recueillera le blé dans sa grange, même si on ne l'a pas lu. mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint pas. » Voilà celui qui va venir. En d'autres termes, il est le maître absolu, il est le juge, il est le Messie. Et pourtant, ce maître absolu, ce juge impartial, ce Messie tout-puissant, au verset 21 et 22, qu'est-ce qu'il est dit? Qu'est-ce qu'on voit? Je vais relire les versets 21 et 22 pour que vous vous rappelez bien. « Après que tout le monde eut été baptisé, Jésus fut aussi baptisé, et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit, et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle comme une colombe, et une voix se fit entendre du ciel, « Tu es mon Fils bien-aimé, je mets en toi toute ma joie. » Cette personne que Jean-Baptiste annonce, que personne ne connaissait pas encore au moment où il parlait, c'est ce Dieu-là qui s'agenouille devant lui pour se faire baptiser. Avez-vous remarqué le jeu de mots? Je ne mérite même pas de m'agenouiller pour délier la lanière de ses sandales. Or, qu'est-ce qui se passe? C'est ce Dieu-là qui s'agenouille devant lui. Contrairement à ce qu'il avait annoncé, que c'est à lui de se courber devant lui pour délier la lanière de ses sandales. Or, c'est l'inverse qui se passe. Et là, Jean-Baptiste ne comprend plus rien. Il est perdu. Jean-Baptiste ne comprenait plus ce qui se passe. Comme s'il disait que je ne comprends plus rien. On m'avait dit que toute la puissance céleste appartient à ce Messie. Et comment se fait-il qu'il s'agenouille devant moi? Mais ce qu'il ne savait pas, qu'au moment où Jésus a été mis dans l'eau, et une fois qu'il a fini de prier, le ciel s'ouvrit au-dessus de lui. Il n'est pas écrit dans notre texte, mais dans d'autres évangiles. Seul Jean-Baptiste a entendu la voix qui descend du ciel et qui a dit « Voici mon Fils bien-aimé ». Donc, il ne s'est pas trompé. C'est vraiment Dieu, c'est vraiment le Messie qui est devant lui. Mais ce Dieu s'est révélé qu'à lui seul. Ça m'a toujours étonné pourquoi Dieu ne s'est pas révélé à toutes les personnes qui étaient là. Il aurait pu profiter l'occasion, voilà, il y a du monde, il y a la foule. N'est-ce pas ce que font les évangélistes qui sont célèbres? On veut montrer la gloire de Dieu devant tout le monde, devant toutes les caméras. Non, seulement pour Jean-Baptiste. Jean-Baptiste seul qui a entendu cette phrase. Ceux qui ont entendu disent « Ah mais c'est quoi ce bruit ?» D'autres ont pensé que c'était une tonnerre. Tout cela signifie quoi, chers amis? Jean-Baptiste ne se trompait pas sur la souveraineté de ce Messie qu'il avait annoncé. Mais là où il s'est trompé, c'est dans la façon dont ce Messie va se révéler. Dieu s'est révélé à lui à travers le baptême, c'est-à-dire à travers son abaissement. Est-ce que Jésus aurait besoin d'un baptême? Normalement, le baptême, c'est pour les pécheurs, n'est-ce pas? Jésus est-il pécheur? Non. Et pourtant, il s'est abaissé. Un Dieu qui se révèle dans son abaissement, mais pas un Dieu qui se révèle en toute gloire, comme le monde le fait. Et cet abaissement va plus loin que le geste manifesté devant ses yeux. Et moi, je ne me fatiguerai jamais de redire ceci, que tous les gestes de Jésus qu'il a fait ont tous des significations. Et la clé de compréhension de ce geste de Jésus se situe dans l'expression « et le ciel s'ouvrit ». Regardez bien la dynamique de la narration. Jésus qui s'agenouille, Jésus qui a été mis dans l'eau, et une fois qu'il sort de l'eau, le ciel s'ouvre. Le verbe « s'ouvrir » ici est au passif. Cela veut dire quoi dans le texte grec? Cela veut dire qu'il y a quelque chose qui a causé ce ciel à s'ouvrir. Ce ciel ne s'est pas ouvert tout seul. Et si nous relisons lentement le verset 21, qu'est-ce qui a permis le ciel s'ouvrir? Il est dit, Jésus aussi reçut le baptême, et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrait. C'est-à-dire, il y a un lien entre le baptême que Jésus avait reçu et le ciel qui s'ouvrait par la suite. Alors, deux interprétations possibles peuvent se dégager de ce texte. La première, en lien avec ce que Jésus avait promis, rappelez-vous, il avait promis à ses disciples avant de les quitter. Matthieu chapitre 18, verset 18, voici ce que Jésus avait promis. « Je vous le dis, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. » Ce passage biblique a été beaucoup interprété maladroitement. L'Église n'a pas autorité dans le ciel. Or, ça a été toujours l'interprétation qui a été faite. Le pasteur n'a aucune autorité sur ce qui se passe dans le ciel. Les évêques, le pape, le président de l'EPUB, les responsables de l'Église n'ont aucune autorité dans ce qui se passe dans le ciel. Ce n'est pas ça l'autorité ici. Ce que vous lierez ici sur la terre sera lié au ciel. Pourquoi je dis cela? Savez-vous qu'au moment même où nous avons été baptisés, le moment, l'instant T, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, instantanément le ciel s'ouvre au-dessus de nous. Crois-tu à cela? Même si ça ne se voit pas, c'est ce qui est dit dans le texte. Dès que tu as été baptisé au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le ciel s'ouvre. Et les anges chantent. Parce qu'on a un enfant adopté ce jour-là. Le Père nous reconnaît comme étant son enfant, un enfant adoptif. Donc ce n'est pas nous qui ouvrons le ciel aux pécheurs, mais c'est le baptême. Donc, ce qui est dit ici, ce que vous délierez ici, c'est à travers le baptême. C'est là la clé du royaume. Le baptême qui ouvre le ciel. C'est magnifique. Cet acte si simple à nos yeux, il n'y a pas de choses spectaculaires, mais là le Seigneur œuvre. Et ce n'est pas tout le monde qui le voit, c'est toi seul que Dieu parle ce jour-là. Ce n'est pas aux autres de me dire, toi tu n'es pas un enfant de Dieu parce que tu as été baptisé ceci. C'est une question entre moi et le ciel. Ça ne te regarde pas. Ça ne regarde pas la vie des gens. Comme ici, c'est entre Jésus et Jean-Baptiste. Tout le monde n'a rien vu. Deuxième interprétation. C'est en lien avec la déclaration du Père annonçant « Tu es mon fils bien-aimé » si vous avez bien suivi la lecture. Rappelez-vous de cette phrase « Tu es mon fils bien-aimé ». Est-ce que vous vous rappelez à quel moment aussi cette phrase a été aussi annoncée exactement comme ici? Deux fois, cette phrase a été prononcée par le Père. Ici, pendant le baptême de Jésus, et où est-ce que cette voix a été encore prononcée? Si vous vous rappelez, dans les évangiles. Pardon? Sur la croix? Non. Le? À la montagne, la transfiguration, merci. Au moment où Jésus a changé de visage, il y avait Jean, Pierre et Jacques qui étaient là, les témoins, et ils ont vu Jésus avec Moïse et Élie lors de la transfiguration. Et rappelez-vous, lors de la transfiguration, presque avant cela, Jésus avait dit à ses disciples qu'il va mourir. Qui va devoir passer par la passion, qui va devoir passer par la souffrance. Mais pour consoler ses disciples, il les a montré d'abord qui il est vraiment. Et c'est la transfiguration. Cela veut dire quoi? Regardez bien, les deux choses sont vraiment pareilles. J'ai dit tout à l'heure, la révélation de Jésus qu'il est le Fils de Dieu s'est révélée dans son abaissement devant Jean-Baptiste. Et ici aussi, la révélation du Père qui a dit « Voici mon Fils bien-aimé » face à Jean, Jacques et Pierre, c'est au moment où il va mourir. En sachant, rappelez-vous que le baptême annonce aussi la mort de Jésus. Le baptême, c'est une sorte d'image qu'il va mourir. Le fait, quand on a mis Jésus dans l'eau, il va mourir et de là, il va ressusciter. Vous savez que le baptême de Jésus, c'est une, je dirais, un moment d'installation pour dire « Voilà le programme » parce que c'est à partir du moment du baptême qu'il a commencé son ministère. Il annonce le programme, il va mourir et il va revenir à la vie. Chers amis, un des secrets de la vie chrétienne qui est difficile pour le monde de le saisir, c'est ceci. C'est dans ton abaissement que nous verrons la gloire de Dieu. Le monde, qu'est-ce qu'il fait? Il faut grimper les échelons de la vie pour réussir et pour briller. Ça, c'est le principe du monde. Et pourtant, la clé du royaume, plus tu t'abaisses, plus la gloire de Dieu se manifeste. Et ça, le monde ne comprendra jamais. Parce que ce sont deux paradigmes complètement opposés. Et comme dit un prédicateur, et je me rappelle toujours ce qu'il avait dit, « Plus je me fais petit, plus Dieu me voit. » Contrairement, plus tu te prends pour quelqu'un, plus Dieu t'ignore. Il avait même dit ceci, « Dieu me voit comme une fourmi sur un rocher noir à minuit. » J'avais 18 ans, 19 ans quand j'entendais cette prédication et ça m'est resté là. Dieu te voit comme une fourmi, une petite fourmi noire, sur un rocher noir à minuit. Là où il est. C'est-à-dire, il voit le plus petit. Et si on fait un scan rapide de toute la Bible, l'histoire de la Bible, avez-vous remarqué, notre Dieu aime choisir toujours les faibles pour ne pas dire les nuls? Regardez Gédéon. Gédéon qui disait, « Pardon mon Seigneur, mais avec quoi sauverai-je Israël ?» quand Dieu l'appelait. « Ma fratrie est la plus faible en Manassé, et je suis le plus petit dans ma famille. » Juges chapitre 6, verset 15. David, le dernier des fils de Jessé. Quand Samuel arriva chez Jessé, « Fais-moi passer tous tes fils. » Alors dans la tête de Jessé, il dit, « Bon, les grands, il n'a même pas pensé qu'il avait encore un fils qui s'appelle David. » Vous imaginez, c'est blessant quand même. Hein? Imaginez que vous êtes à la place de David, tu n'es même pas compté parmi les fils. Et à la fin, quand à chaque fois, un passé, « Non, c'est pas lui. » Et Samuel a posé la question à Dieu, « Mais finalement, qui est l'élu ?» Et il a posé la question, « Est-ce que tu as encore un fils ?»« Oui, mais... » »« Lui, oui. » »« Mais fais-le passer. » On l'a convoqué de son boulot et l'Éternel dit, « Voici l'homme selon mon cœur. » C'est la seule personne que Dieu a dit ceci dans toute la Bible. Un petit gamin qui a été choisi le plus grand d'Israël. Que dire aussi de l'apôtre Paul? Le grand Paul, qui étonne tout le monde dans sa foi. Mais rappelez-vous comment Paul se prononce-t-il devant Jésus? Je suis l'avortant de Dieu, le plus petit parmi tous les disciples de Jésus. Et beaucoup d'autres, j'en passe. Alors, pour clôturer ma méditation, te sens-tu petit? Te sens-tu rien du tout dans ta famille, dans là où tu es? On t'ignore peut-être? On te traite de nul peut-être? Alors je te dis, tu as rempli les critères du ciel. Mais oui. Tu as rempli les critères du ciel. Dieu a besoin de toi dans ta nullité pour qu'il puisse montrer sa bonté aux yeux du monde. Plus tu te dis, mais moi je suis ceci, moi je suis cela. Et Dieu a dit, justement c'est pour ça que j'ai besoin de toi. Donc il n'y a pas des cases à remplir chez Dieu. Là où tu es, il te relève. Il dit, lève-toi. J'ai besoin de toi comme Gédéon. J'ai besoin de toi comme Moïse. J'ai besoin de toi comme David. Et je manifesterai ma gloire à travers ta nullité, ta petitesse. Amen.